Vous écoutez l'atelier des médias avec Connect, la solution de connexion Internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique.
Salut, c'est Steven Jambeau de l'atelier des médias. Depuis 2 mois, RFI est privé de diffusion au Mali. Nos 6 émetteurs dans le pays ont été coupés, nos sites et applications sont inaccessibles sur décision des autorités de Bamako. Il reste toutefois possible de suivre nos programmes en français, Mandankan et Fulfulde via les ondes courtes, de nous écouter sur la chaîne YouTube de RFI, d'utiliser un VPN ou d'aller sur le site Miroir que nous avons mis en place. Il est aussi possible, évidemment, de nous suivre sur Facebook et Twitter. Vous l'aurez compris, il est compliqué de continuer à suivre RFI quand on vit au Mali, mais RFI continue de parler du Mali. Dans l'atelier des médias cette semaine, je vous propose de découvrir une initiative média lancée par des Maliens pour les Maliens du Mali et de la diaspora. J'irai Suntingue chez vous, c'est une série de vidéos qui ont commencé à être tournées durant le mois de Ramadan avec l'ambition de vivre l'expérience de la jatiguia, l'hospitalité de Bamako à Tombouctou, de montrer la vie quotidienne, les traditions et les spécialités culinaire des nombreuses communautés du Mali. Pour présenter ce projet, j'ai joint celui qui en est l'initiateur, le journaliste malien Georges Attino, que je connais bien puisqu'il est membre de Mondoblog, la communauté des blogueurs francophones de RFI, et parce qu'il a travaillé au sein de la rédaction en langue mandingue de RFI, à Paris puis à Dakar. Mardi matin, depuis Bamako, Georges m'a raconté l'aventure de J'irai Suntingue chez vous.
Netoko George Attino ni singolina ni interview Désiré ani Dani Oro antara Mali jatia Syria ka kaboma ko foto moktu kanga dumuni an tablo olu diabo nanga tanyo fe.
Salut Georges, comment ça va à Bamako?
Salut Steven, ça va très bien, et de ton côté?
Ah bah écoute, ça va bien, ravi de t'entendre dans l'atelier des médias. Cette année, Ramadan et Carême ont coïncidé, ce sont des périodes de jeûne, mais où mine de rien, on se rencontre. Et c'est dans ce contexte que tu as eu l'idée de créer cette série de vidéos « J'irai Suntingue chez vous ». Explique-nous.
En fait, l'idée est née chez un ami au quartier qui m'a invité à la rupture du jeûne chez lui. Du coup, quand j'y étais, je me suis dit, ce serait certainement une excellente idée de pouvoir le dupliquer chez d'autres personnes, histoire de montrer aussi les facettes du Ramadan, du Carême au Mali, pour que les gens sachent comment cette période spéciale se passe au Mali. C'est un moment de partage, un moment convivial que les Maliens partagent les uns avec les autres, quelles que soient les confessions religieuses.
Justement, en préparant cette discussion, tu me disais que c'est une période d'accalmie, où les gens sont plus conciliants.
Effectivement, c'est une sorte de pause au Mali. On sait que au Mali, c'est un peu difficile, c'est compliqué avec la situation politique actuelle. Mais le Ramadan, c'est aussi un moment où on met tout cela de côté, où on se concentre sur soi, mais aussi on pense à l'autre. Et c'est un moment très très important parce que c'est un moment de partage, de solidarité. C'est un moment où on met les égos de côté, on met les différences de côté, et chacun est disposé à aider son prochain. C'est un moment vraiment spécial et utile dans le contexte malien actuel.
Alors, cette série vidéo « J'irai Suntingue chez vous », le titre est un clin d'œil à « J'irai dormir chez vous », l'émission d'Antoine de Maximi, ce journaliste et réalisateur français qui parcourt le monde seul avec un sac à dos et un dispositif de petite caméra qui le filme dans ses rencontres avec les habitants chez qui il va dormir. Qu'est-ce que tu as souhaité garder de la formule d'Antoine de Maximi pour essayer de la répliquer au Mali ?
Effectivement, on s'est vraiment inspiré de lui. Déjà, à travers le logo de l'émission, on a voulu garder le même format, on a gardé le même logo. On s'est dit, à travers lui, son exemple, qu'on ira nous aussi chez les gens. Donc, on a gardé le même concept, mais aussi on a gardé surtout la simplicité des relations humaines, la simplicité de la générosité humaine, parce que lui, dans J'irai dormir chez vous, il ne va pas dans des hôtels 5 étoiles, il va chez les gens. Donc on s'est dit, on va faire la même chose pour montrer cette simplicité, pour montrer monsieur, madame, tout le monde dans leur quotidien, mais aussi chez eux, en fait. Chez eux, ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, tout ce qu'ils font au quotidien chez eux. Ben, on va juste montrer cette simplicité pour montrer aussi aux uns et aux autres que ben, voilà, la vie, c'est aussi ça. C'est aussi ces moments de simplicité, c'est aussi ces moments de cohésion, c'est aussi ces moments de partage. Et c'est ce qui fait aussi de nous des êtres humains, en fait, qu'on mette toutes nos différences de côté et puis qu'on partage ces repas délicieux ou qu'on décide ensemble, par exemple, d'aller au coin de la rue et puis de partager des repas avec des inconnus, d'échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas bien forcément. Mais c'est aussi ça, c'est la vie, en fait. C'est fait aussi de coïncidences, de rencontres, et puis c'est ça la vie, en fait. C'est justement ce que on voulait montrer. On s'est inspiré également de lui en faisant gérer son ticket chez vous.
Maintenant, on va commencer. Les dames vont servir. Les gars vont sortir avec. Même nous sommes nous faire un peu faire bon.
Ensemble, allez. Georges, le premier épisode de Jirai Soumtingué chez vous se déroule dans les rues de Bamako lors d'une distribution de nourriture.
Effectivement, on était avec une association de jeunes qui a mis en place cette idée de pouvoir distribuer des repas à l'heure de la rupture du jeûne à des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter de quoi manger, mais aussi à des personnes qui étaient tout simplement loin de chez eux. Donc on a pris part à cette activité, on a distribué des repas à tous ceux et à toutes celles qui étaient dans les besoins. Donc c'était moi personnellement ma première fois de prendre part à des initiatives de ce genre et puis de voir que c'était des jeunes qui mettaient cela en place également et qui collecter de l'argent via leur compte Facebook et puis WhatsApp. Donc c'était vraiment fabuleux et puis top de voir ces genres d'initiatives et de partage de repas, donc dans la convivialité, dans la solidarité, dans la simplicité, quoi. C'était vraiment touchant pour moi et les gens qui recevaient ces repas étaient touchés et puis très contents.
Dans Jirai Soumtingué chez vous, il y a aussi cette idée de se mettre en scène, de se filmer aux côtés des gens. C'est pas seulement un journaliste qui filme d'autres gens, c'est aussi un journaliste qui participe, qui est aussi acteur.
C'est exactement ça. Donc on voulait que les sujets soient incarnés, en fait. On voulait quelqu'un, le journaliste, en l'occurrence c'est moi, mais que je sois vraiment présent dans les scènes, que je prenne part aux activités parce que c'est ce qui me permettrait de bien raconter ce qui se passe, quoi. Donc on voulait vraiment que je sois vraiment dans l'action. Mais des fois j'étais un peu gêné je me disais est-ce que je prenais trop la place, par exemple quand on a tourné avec l'association qui partageait les repas dans la rue. Donc je me suis dit il faudrait aussi laisser de la place aux membres de l'association qui font ça tout le temps. Donc ce n'est pas juste parce qu'on est là avec une caméra qu'on doit nous mettre exclusivement en avant dans toute la vidéo. Donc il y a aussi cette réflexion de laisser également la place aux acteurs, même si on veut effectivement incarner nos reportages en mettant avec le journaliste, le présentateur qui fait aussi l'action et qui, en faisant l'action, pourra bien l'expliquer, pourra bien la raconter, parce qu'il le vit, en fait.
Ça, c'est quelque chose que l'on ne voit pas du tout dans les médias maliens.
Non, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout. Maintenant, j'espère que ça va donner beaucoup d'idées à l'ensemble des médias jeunes au Mali, des journalistes jeunes au Mali, pour que certainement que l'exemple se duplique, quoi, parce que il faut qu'on soit au top puisque la concurrence est en route.
Allez, c'est vrai, effectivement, alors qu'on a vu il y a quelques semaines dans l'atelier des médias que Brut s'était lancé dans plusieurs pays du Maghreb, ils ont aussi une existence au Sénégal, mais pour l'instant pas encore au Mali. Et évidemment, vous avez pris la route. L'idée, ce n'était pas de rester seulement à Bamako, mais aussi d'aller voir ailleurs. Vous êtes allé notamment jusqu'à Tombouctou.
Effectivement, on est parti à Tombouctou, dans cette ville merveilleuse, dans cette cité des 333 saints, et pour également raconter comment le Ramadan se passe là-bas, comment la vie se passe également à Tombouctou. Donc, c'était aussi l'objectif de Jireh Suntike chez vous, c'était de quitter la capitale, d'aller dans ces villes pour montrer le quotidien des populations aussi pendant le Ramadan. Et du coup, quand on a été à Tombouctou, on a vu que c'est totalement différent de ce qui se passe à Bamako. Les cultures sont différentes, les repas sont différents, les initiatives ou en tout cas les activités que mènent les populations pendant le Ramadan, c'est différent. Par exemple, on a pris part à ce qu'on appelle Tijifodame, ce sont des nuits de compte où les sages et les vieux des quartiers rassemblent les jeunes et puis les racontent des histoires comme ça se faisait traditionnellement dans les sociétés africaines. Donc il y a un groupe de jeunes qui a lancé cette initiative. Donc ce sont des initiatives comme ça pour préserver les contes et les traditions orales de Tombouctou, parce qu'ils enregistrent ces contes, ces histoires, ces danses, ils les numérisent et puis pour les garder, pour pouvoir les transmettre aux jeunes générations. On a aussi pris part à des temps où des femmes préparaient le takoula, c'est le pain rond chaud de Tombouctou qui fait la spécificité aussi de cette cité légendaire. Donc c'est aussi ces moments de partage, et c'est aussi des moments où on a dormi à la belle étoile sur un toit, et voilà quoi, c'est tout cela effectivement qu'on a pu expérimenter pendant ces moments-là.
La démarche aussi qui est la vôtre, c'est d'aller évidemment à la rencontre des gens et puis d'aller à la rencontre des gens qui font des choses, des acteurs. Et quand vous faites ça, c'est plus facile aussi que de sortir vos appareils photos, vos caméras pour tourner ces images.
Effectivement, l'idée c'est de, par exemple, ce qu'on a fait à Tombouctou, on a pris part à une formation avec des jeunes, donc on a partagé nos connaissances sur la photographie, la vidéo aussi, mais aussi sur le podcast, donc avec des jeunes qui habitent à Tombouctou. Et avec ces mêmes jeunes, je vais citer quelques noms si vous le permettez, Amey Kapi, Alousseyne Eladj. Donc on a filmé ensemble par exemple des moments de vie à Tombouctou. Comme ça, c'est de un, c'est plus facile de filmer ces moments, puisque là on a des jeunes qui sont de la ville. Donc ce ne sont pas que des inconnus qui débarquent avec leur caméra pour filmer, mais il y a aussi des moments où on sentait que la caméra intimidait un peu. Donc du coup, on a par moments rangé les caméras et puis utilisé les smartphones pour filmer. Tout cela pour aussi être fidèle à ce qui se passe au quotidien de ces populations-là, de ces personnes-là, pour montrer aussi que à Tombouctou, c'est vrai que au Mali, on parle beaucoup de sécurité, mais ce n'est pas que ça. Il y a la vie continue, en fait. Donc, les gens, tous les jours, ne se réveillent pas la peur au ventre. Ils ont des projets, ils ont des rêves plein la tête. Les jeunes, ils veulent aussi avoir du boulot, continuer à travailler, raconter leur ville, faire des photos, les poster sur Instagram, faire des émissions. Il y en a qui ont lancé une émission qui s'appelle Ici Tombouctou. Voilà quoi. Donc, c'est aussi tout cela, le cœur du projet, de l'initiative.
Alors Georges Attino, les vidéos donc de Jireh Suntike chez vous sont diffusées principalement sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Et tu me disais qu'il y a une demande sur le net de contenu vidéo par les Maliens, pour les Maliens, des vidéos de qualité qui soient « made in Mali ».
Effectivement, il y a une vraie demande de cela, parce que vu également le contexte actuel, les Maliens, ils veulent se raconter, en fait. Ils veulent un autre narratif, que des jeunes Maliens puissent parler du Mali, puissent parler de ce qui se passe aussi au Mali. Donc il y a vraiment ce besoin-là, et ce besoin, on l'a vraiment senti à travers les premières réactions qu'on a eues quand on a posté les premières vidéos. Donc il y a beaucoup de Maliens qui nous ont juste dit c'est top, qui nous ont remercié. Il y a aussi la diaspora malienne, principalement en France, qui nous a contactés en disant qu'ils aimeraient plus de contenu de ce type sur le Mali. Et on a voulu aussi, à travers ces vidéos, donner une place également aux langues locales, pour que ceux qui ne comprennent pas français puissent comprendre ce qui est dit dans la vidéo et puis transcrire avec des sous-titrages, ce qui est dit pour que ceux, celles qui ne comprennent pas les langues nationales puissent lire et comprendre ce qui est dit également en français. Et dans cette initiative, toujours dans cette même lancée à Tombouctou aussi, des jeunes ont voulu se mettre ensemble pour pouvoir raconter également leur ville avec des blogueurs chapeautés par des blogueurs comme Aloussein Eladj et puis Fatouma Arber, qui sont aussi des mondo-blogueurs, donc pour pouvoir raconter également leur ville avec leur regard, pour changer le narratif également de Tombouctou, mais aussi du Mali.
Raconter ce que les médias internationaux et les médias maliens eux-mêmes racontent pas ou racontent peu. C'est le moment aussi peut-être de parler de ceux qui sont avec toi dans cette aventure. On peut les citer, je te laisse le faire.
Dans cette aventure, nous sommes à peu près 4. Je suis avec Désiré Fialé, qui est malien et réalisateur, avec Dany Oran, qui est sortant du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia du Mali, et également avec Ousmane Machiavelli, qui est blogueur, photographe, philosophe, et donc ensemble, on participe à cette aventure de voyage de folie, un peu, parce que voilà, quoi, c'est né d'une idée toute simple, et puis on a même pas forcément pensé à un business model, mais on s'est dit, on a envie de le faire. Et puis, entre potes, on s'est lancé.
C'est ce que j'allais dire, c'est une histoire de copains. Vous faites ça sur vos fonds propres, mais des vidéos de qualité comme ça, mine de rien, ça coûte cher. Alors, c'est quoi le plan ?
Le plan, à la base, ce serait de mettre en place une plateforme. Donc, une plateforme pour un média, en fait, pour continuer avec ses contenus, parce que c'est ces voyages que nous faisons quand on a posté les vidéos, quelques photos, chacun aussi a été contacté par d'autres grands médias, mais l'idée c'est de ne pas se laisser happer par ces opportunités, peut-être travailler à côté sur ces opportunités, mais de construire vraiment ce projet qui à la base serait Beautiful Sahel. Donc ce serait un média qui va parler de ce qui ne se dit pas sur le Sahel, en fait, des populations, mais aussi des cultures, des réalités, des musiques, par exemple des villes, des initiatives jeunes, des femmes, des filles qui font bouger les choses. Bref, voilà, quoi, de nous raconter tel qu'on aimerait qu'on nous voit. Voilà, c'est ça le projet.
Merci beaucoup, Georges. Je rappelle J'irai Suntingé chez vous, qu'on retrouve sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. On a hâte de voir encore tous ces beaux contenus qu'on partage aussi sur le compte Twitter et la page Facebook de l'Atelier des Médias. À bientôt, Georges, et bonne journée à Bamako.
Merci, Steven. Salut.
RFI.
C'est bientôt la fin de cette émission, le moment de Mondoblog Audio qui nous permet d'entendre les voix des blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Cette semaine, Mondoblog Audio s'associe au blogueur camerounais Ecclésiaste Dejuy pour lutter contre l'homophobie. Le 17 mai, mardi, ce sera la journée internationale de lutte contre l'homophobie. À cette occasion, nous écoutons Ecclésiaste nous dire, depuis le Cameroun, pourquoi il est attentif à cette cause et pourquoi nous devrions tous l'être.
Ici au Cameroun, les gens se mêlent régulièrement de la vie sentimentale des autres Camerounais, au point qu'ils ont décidé de qui a le droit d'aimer et de qui n'a pas le droit d'être aimé. Ici au Cameroun, il y a les hétérosexuels, les homosexuels, et il y a aussi les homophobes. Les homophobes, ce sont ces gens-là qui détestent les homosexuels pour rien comme ça. Moi, je ne suis pas un homosexuel. Mais depuis que j'ai côtoyé ces Camerounais qui sont marginalisés et systématiquement stigmatisés, j'ai décidé de ne plus négliger leur cause. J'ai décidé de chercher à les comprendre. J'ai décidé de lutter contre l'homophobie alors que le Cameroun est l'un des pays les plus homophobes au monde. Quand je veux parler de ce sujet avec certains voisins de mon quartier, ils me disent toujours que, et je cite, « Il faut les tuer, il faut les tuer !» Quand j'explique que l'homosexualité n'est pas une maladie et que ce n'est pas non plus une malédiction, certains Camerounais me disent de la fermer. Il y a des gens ici qui ont décidé de ne plus jamais me parler. Il y a aussi des amis intimes qui se méfient désormais de moi parce que je mange avec des homosexuels ou que je pars souvent en boîte de nuit avec des lesbiennes, celles-là même qui sont de vraies ambianceuses ici à Douala. C'est quelle société de ça, aussi conformiste et aussi misanthrope? les hétérosexuels peuvent employer des mots insultants en public pour stigmatiser les homosexuels et s'exprimer librement sur les réseaux sociaux avec des propos haineux. Ils peuvent même demander à un policier de faire incarcérer un efféminé ou bien un garçon manqué. Qui cela choquera au Cameroun? Presque personne. Pendant ce temps-là, les homosexuels n'ont même pas le droit à la parole. Ils vivent dans la persécution perpétuelle et sont condamnés à vivre en cachette, sinon on va les lyncher en direct. Ils n'ont pas le droit d'exprimer leur affection et mentent constamment sur leur orientation sexuelle parce que la société camerounaise est encore très fermée pour eux et la loi n'est pas vraiment de leur côté. Ces gens-là souffrent le martyre ici dans notre pays et moi je trouve cela injuste. Ils sont différents et alors, il faut arrêter d'augmenter la souffrance des homosexuels. Il faut arrêter de les rejeter, c'est-à-dire les chasser du domicile familial, les expulser du quartier ou alors les licencier au travail. Ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que l'homosexualité ne se choisit pas. Ce n'est pas comme si, à ta naissance, quand ta mère accouche, la sage-femme t'amenait directement devant tes parents et leur demandait que « Ah, j'ai dit, hein, as-tu envie d'être un hétérosexuel, un bisexuel ou alors un homosexuel ?» Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que si on demandait à tous nos bébés de choisir leur orientation sexuelle, personne ne choisirait une sexualité qui lui causerait autant de problèmes. Il y a vraiment trop de préjugés sur les homosexuels. Les gens pensent qu'on a jeté un sort sur la personne, ou bien que c'est un fou, ou bien que c'est une perversion. Parce que quand on dit homosexuel, les gens pensent directement au sexe, alors que ça n'est pas une histoire de sexe en réalité. L'homosexualité ne se résume pas à la sexualité. L'homosexualité, c'est simplement une sensibilité différente, une autre façon d'être. Mais personne ne s'est jamais approché d'un homosexuel camerounais pour lui demander que « Mon frère, pardon, explique-moi un peu comment tu vis avec ton homosexualité là au quotidien. » Non, ça n'arrive jamais parce que nous sommes dans une société de jugement et de voyeurisme. Et nous ne comprenons encore rien à l'amour. Mais moi, je dis qu'il ne faut plus stigmatiser les homosexuels, tout simplement.
mondoblog.org.
C'était le mondoblogueur camerounais Ecclésiaste De Djui que l'on peut lire au quotidien sur son blog des Camerounaiseries. C'est la fin de cette émission, enregistrée avec Simon De Creuse et réalisée par David Brocouet. La semaine prochaine, je recevrai Bertrand Mossia de Reporters sans frontières pour présenter la Journalism Trust Initiative, une plateforme qui œuvre pour la fiabilité, la transparence et la durabilité des médias. Tout un programme. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcasts, Castbox, Podcast Addict, ou encore l'appli Radio France. Mettez-nous des étoiles sur toutes les plateformes où vous le pouvez et laissez-nous un commentaire pour donner envie au plus grand nombre de faire partie de notre communauté d'auditeurs. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message via Twitter. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.
Vous avez écouté l'Atelier des médias avec Connect. Connect, l'internet fixe par satellite qui permet de capter en haut débit partout en Afrique, dans les grandes villes, les petites et même au village.